Voilà, alors sur le sujet de la fonction ou du ministère des anciens dans l'Église, on va faire cinq rencontres. Elles seront intitulées ainsi. La première, c'est aujourd'hui les anciens et la structure de l'Église. Et on va essayer de voir un peu cet après-midi les contours du ministère des anciens. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va essayer de voir dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Numéro 2, ce sera les anciens et la doctrine de l'Église. Numéro 3, les anciens et l'accompagnement de l'Église. Numéro 4, les anciens et la discipline de l'Église. Et numéro 5, les anciens et la gestion de l'Église. Pourquoi une telle série? Parce qu'une Église établie, une Église majeure, une Église autonome, c'est une Église qui a des anciens, c'est-à-dire un conseil, un collège d'anciens, un groupe de personnes au pluriel que l'on appelle des anciens, et on va voir de quoi il s'agit exactement aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Dans mon expérience en tout cas, c'est peut-être la vôtre, peut-être pas, peu importe, dans mon expérience, il y a une grande confusion aujourd'hui autour du rôle des anciens, autour de leur fonction, et sinon une confusion peut-être de l'ignorance. Quel est le modèle? Un ancien, c'est quelqu'un qui ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à un professeur, par exemple? Parce que, est-ce que les professeurs, c'est un bon modèle pour les anciens dans l'Église? Est-ce que les policiers, c'est un bon modèle pour les anciens dans l'Église? Est-ce que ministre de l'éducation, de la culture, des sports, est-ce que ça, c'est un bon modèle, un bon exemple, enfin un bon parallèle pour le ministère des anciens? Ou bien délégué de classe, est-ce que c'est ça? Administrateur, etc., etc. Qu'est-ce que c'est finalement un ancien? Difficile à dire. Mais c'est très important pourtant de pouvoir le dire parce qu'il s'agit, quand on parle du ministère des anciens, quand on parle de leur fonction, il s'agit de la bonne marche de l'Église de Jésus-Christ. Il s'agit de la bonne marche de l'Église de Jésus-Christ. Il s'agit de la gestion du peuple de Dieu incarné en communauté locale. Donc c'est extrêmement important. Et on va voir cet après-midi que le rôle d'anciens, en fait, c'est un concept proprement biblique. Ça ressemble à rien d'autre. Ça ressemble à rien d'autre. On peut faire des rapprochements et des parallèles, bien sûr. Mais en soi, le ministère d'anciens dans l'Église, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est un concept proprement biblique. Notre objectif, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans le cadre des messages ou de la dernière assemblée générale. Notre objectif, c'est que nous puissions installer, consacrer un conseil d'anciens dans cette Église au printemps. Et ce sera la première fois que notre Église aura un vrai conseil d'anciens depuis que je suis devenu le pasteur il y a à peu près 7 ans. Mais ce processus est normal, hein, rassurez-vous, c'est normal dans le cas d'une Église en implantation, une Église pionnière qui démarre à partir de rien. C'était le cas il y a 13 ans, notre Église a démarré à partir de rien. Elle a fonctionné avec des responsables qui étaient des missionnaires, mais donc par définition qui étaient là à moyen terme, mais pas à long terme. Et quand les missionnaires sont partis et qu'on m'a demandé de devenir le pasteur, on s'est retrouvé sans ancien, mais avec un conseil d'administration. C'est sur cette base qu'on a fonctionné jusqu'à présent. Je vous résume un peu l'histoire de l'administration de notre Église. Mais notre objectif, parce qu'on veut être une Église biblique, c'est d'avoir un conseil d'anciens le plus vite possible. Alors, premièrement, pour bien comprendre ce que c'est qu'un ancien et son rôle, il faut que nous posions la question de qu'est-ce que c'est, comment l'Église est-elle structurée d'après la Bible? Et l'Église, en théologie réformée, ça n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. En théologie réformée, l'Église, c'est le peuple de Dieu depuis que Dieu a un peuple, n'est-ce pas? Ce peuple a existé sous forme de prémisse avec Abraham et sa famille. Mais la naissance du peuple en tant que peuple, on la voit avec le livre de l'Exode, n'est-ce pas? Avec l'histoire de Moïse, que Dieu envoie en Égypte pour libérer les Hébreux, le peuple hébreu. Et c'est là qu'on a un peuple qui apparaît dans l'histoire du salut en tant que peuple et non en tant que simple famille. Alors depuis qu'il y a un peuple, il y a des conducteurs pour le peuple, des gens qui conduisent le peuple, qui sont des chefs ou des gouvernants ou des gouverneurs. Quel a été le premier conducteur emblématique du peuple de Dieu, d'après vous? Moïse. Ben oui, c'est facile, hein? Moïse, c'est écrit, hein? Alors, il y en a qui suivent, c'est bien. Et pourtant, Bien que Moïse soit le premier conducteur emblématique pour le peuple avait déjà des responsables. Tiens, tiens. On le voit par exemple à la fin du livre de la Genèse, chapitre 50, verset 7. Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays d'Égypte. On a ce concept d'ancien qui apparaît. Alors là, ce ne sont pas des anciens du peuple d'Israël, ce sont des anciens du peuple égyptien, de la nation égyptienne. Mais là, on a la première apparition du terme « ancien » dans la Bible, qui est traduit dans la traduction grecque de la Bible par « presbyteros », qui est le terme employé dans le Nouveau Testament pour désigner les anciens dans l'Église. Alors on a un concept déjà qui existe dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais avec l'apparition du peuple israélite, dans le livre de l'Exode, voyez ce qu'on lit, par exemple, Exode chapitre 3, verset 16. Alors, je vais vous balancer ces références bibliques, notez-les si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'on va essayer d'aller assez vite. Mais Exode 3, verset 16, voyez ce qui est dit. C'est Dieu qui parle à Moïse. « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » Alors déjà, le peuple israélite en Égypte avait des responsables, des chefs, appelés ici des anciens. Et Moïse, qui est envoyé comme le libérateur, le médiateur, le conducteur du peuple d'Israël, il va quand même s'adresser aux anciens, aux responsables du peuple. Et c'est ce qu'on va voir tout au long du livre de l'Exode. Je ne vais pas regarder toutes les références, mais quand Moïse veut s'adresser au peuple, il va convoquer les anciens du peuple. Vous voyez ? Très tôt, donc, dans l'histoire d'Israël, on a déjà, dès le début du livre de l'Exode, l'idée de la pluralité de responsables. D'accord ? Moïse n'a pas exercé son autorité en dictateur, il faut le dire. Et pourtant, Moïse a quand même occupé un rôle bien particulier. Hein. Il est l'exemple du conducteur, du libérateur, du prophète et du médiateur, qui d'ailleurs sera réalisé par Jésus-Christ de façon parfaite lors de sa venue. Mais déjà, le peuple à des responsables, des anciens. On a ce concept-là. On a un autre concept qui apparaît très tôt, dès le Deutéronome, c'est le concept des anciens de la ville. C'est une expression qu'on retrouve souvent dans le Deutéronome, les anciens de la ville. Enfin, je vais vous donner un exemple tout simple, Deutéronome 19, verset 12, par exemple. Et s'il arrive qu'un homme ait de la haine pour son prochain, lui tende des embûches, se dresse contre lui et le frappe mortellement et que l'autre meurt, s'il s'enfuit dans l'une de ses villes, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang. Les anciens de la ville. Et cette expression-là, juste comme les anciens de la ville, va réapparaître régulièrement tout au long du livre du Deutéronome dans le contexte des lois qui doivent régir le peuple d'Israël. Donc on a l'idée de la pluralité de responsables. On a aussi l'idée de responsables qui exercent une autorité au niveau local, les anciens de la ville. D'accord ? Et ça apparaît très tôt dans l'histoire du peuple de Dieu. Le deuxième exemple illustre d'un conducteur pour le peuple. Allez, David, c'est facile, c'est écrit sur le plan. David, le roi David. Écoutez ce qui est dit au sujet du roi David dans le psaume 78, verset 70. 78, versets 70 à 72. Il a élu David, son serviteur, il l'a tiré des bergeries, il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. L'image du conducteur qui est également berger pour le peuple, celui qui conduit de façon compétente pour le bien-être, qui conduit le peuple de façon compétente pour son bien-être. C'est aussi ce qu'on voit dans 2 Samuel 5, versets 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le conducteur d'Israël. » Écoutez bien. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. C'est important comme fonction, hein, les anciens d'Israël. Hein, ils ont conclu l'alliance avec David, et c'est même eux qui l'ont oint roi. Donc on voit que David, c'est un exemple illustre de conducteur du peuple, et en même temps, il y a toujours ces anciens qui sont présents, les anciens du peuple, et qui ont un rôle très important. J'ai mentionné le fait que David était berger, et d'ailleurs il est l'image du conducteur berger pour le peuple, mais vous savez que le fait que David était berger, il était berger avant de devenir roi, c'est un point commun qu'il a avec Moïse. Moïse aussi était berger avant de devenir le conducteur du peuple. Et cette image de berger est une image très très importante, Jonas l'a déjà mentionné dans le cadre de ses deux prédications sur le bon berger, c'est une image très importante pour comprendre le rôle des anciens, et on va y revenir. Alors, tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, il y a eu d'autres conducteurs. Ézéchiel chapitre 34, on ne va pas le lire, mais Jonas y a fait référence dans une de ses prédications au sujet des conducteurs du peuple qui sont appelés dans ce texte des bergers, mais ils sont dénoncés comme étant des mauvais bergers, qui au lieu de faire paître le peuple, ils se repaissent eux-mêmes, aux dépens du peuple. Des bergers égocentriques, égoïstes, d'accord, qui font souffrir le peuple plus qu'ils ne favorisent son bien-être. Donc on a toujours cette image, et notez bien, c'est toujours une pluralité de responsables. Même en exil, le peuple a des conducteurs et des responsables, on le voit dans Jérémie chapitre 29, verset 1. Très intéressant ce verset. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple. Ici, c'est très, très intéressant parce que les anciens, les prophètes et les prêtres sont associés. Et ça aussi, c'est une chose qu'on va retrouver à maintes reprises tout au long du récit biblique. Donc, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Les anciens, ce sont des genres d'hommes politique. Ils gouvernent le peuple. Certains le font au niveau local, les anciens de la ville, comme on le voit dans le livre du Deutéronome. Ils doivent assurer, en tant qu'hommes politiques, le bien-être de la cité, de la communauté. Ils sont là appelés à juger, à trancher dans des situations, d'accord ? Ils gèrent, ils gouvernent. On pourrait les comparer, à ce stade en tout cas, à des maires, peut-être, ou au moins à des conseillers municipaux, vous voyez, qui exercent une autorité en conseil. On pourrait les comparer à des juges, parfois. Mais pas des juges qui sont tout-puissants dans leur coin, mais qui toujours exercent leur autorité, leur fonction à plusieurs. Alors, il y a une catégorie de responsables qu'on a mentionné qu'en passant, ce sont les prêtres. Et effectivement, au niveau cultuel maintenant, non pas civil et politique, mais au niveau cultuel, au niveau du culte d'Israël, on a, vous le savez sans doute, une tribu parmi les 12 tribus d'Israël qui était consacrée entièrement au culte, au service du temple. Et avant le temple, c'était le tabernacle, cette espèce de temple portatif que le peuple d'Israël transportait avec lui au désert. Cette tribu, c'était la tribu des Lévites. La tribu des Lévites. Alors, ils étaient consacrés au service du temple, c'était les responsables du culte. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dispersion lorsque les Israélites n'ont plus pu aller au temple pour célébrer leur culte? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les synagogues sont apparues. C'était des salles de culte, un peu comme nous, dans des endroits parfois incongrus sans doute, où les Juifs pouvaient se réunir pour étudier ensemble la Torah, prier, chanter les psaumes. D'accord? On n'a pas beaucoup d'éléments concernant la synagogue dans l'Ancien Testament. Mais quand on arrive au Nouveau Testament, que Jésus apparaît, qu'on a les récits des évangiles, on a Jésus qui apparaît dans un contexte d'occupation romaine. D'accord? Et là, on a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux synagogues, ou dans les synagogues. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que les synagogues, elles-mêmes, ont leurs responsables. Intéressant, non? Par exemple, je vais prendre deux exemples, Marc 5, 22, et on a cette expression qui revient régulièrement dans les évangiles, les chefs de la synagogue. Marc 5, verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds. Jaïrus, c'est celui dont la fille est malade, vous savez, et doit être guérie. Un des chefs de la synagogue. Luc 4, verset 20. Là, on a une autre expression différente. C'est pas chef. Et pourtant, il s'agit toujours de la synagogue. Alors, Jésus s'est levé. Il a lu cet extrait d'Ésaïe. Oui, merci. Et il a fini de lire. Et ensuite, voici ce qu'il dit, verset 20. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Le terme qui est employé ici, parfois traduit dans d'autres traductions, le ministre. En anglais, on comprend le rapprochement avec pasteur, parce qu'en anglais, on parle des ministers, c'est-à-dire les serviteurs du culte. Donc là, il s'agit d'un gars, le ministre, le serviteur de la synagogue, probablement celui qui était devant et qui présidait la réunion, comme un pasteur aujourd'hui présiderait un culte. Jésus se lève pendant le culte, il fait une lecture biblique, qui est un peu provocatrice, puisqu'il est en train de s'appliquer à lui-même ce texte. Et ensuite, il rend le livre au pasteur et il retourne s'asseoir. Donc les synagogues ont des responsables, des chefs, des serviteurs, un ou plusieurs. Ok. Alors quand on arrive au Nouveau Testament, quand on arrive particulièrement au ministère des apôtres, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, on a donc certains concepts qui sont quand même bien installés dans la mentalité, au moins des Juifs. Ancien, c'est pas un terme nouveau. Les anciens de la ville, c'est pas une idée nouvelle. Les conducteurs qui sont des bergers pour le peuple, c'est pas une idée nouvelle. Les prêtres, les prophètes, ce sont pas des idées nouvelles. Les chefs de synagogue et les serviteurs de la synagogue ne sont pas des idées nouvelles. Ça évoque beaucoup de choses pour les gens de cette époque. On a aussi, figurez-vous, les anciens, qui sont toujours là quand Jésus exerce son ministère, par exemple Matthieu chapitre 16, verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Il devait souffrir beaucoup de la part des anciens, des sacrificateurs et des scribes. Tiens, on a encore cette association de trois ministères, anciens, sacrificateurs et scribes. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure dans l'Ancien Testament ? Anciens, prêtres et prophètes. Là, simplement, prophète est remplacé par scribe. On a toujours ces trois fonctions qui sont associées ici, au niveau des responsables du peuple, comme trois volets, trois responsabilités, quelque peu différentes, parmi ce collège plus large d'anciens de responsables du peuple. Donc ici, les anciens, dans l'Ancien Testament, jouent toujours un rôle essentiellement civil et politique. On les retrouve dans Luc 7, versets 2 à 5, on les retrouve associés à la synagogue. Dans Luc 22, verset 66, on découvre qu'ils siègent ensemble, et ce verset, je vais quand même vous le lire. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. D'accord ? Sanhédrin, c'est le nom de cette assemblée de responsables, cette réunion de responsables des Juifs. Et là, réunis pour une réunion importante, n'est-ce pas ? On a les anciens, les scribes, et les principaux sacrificateurs, ensemble, qui siègent ensemble. Alors Jésus meurt sur la croix, il ressuscite, il monte au ciel, et là, il envoie l'Esprit à ses disciples, et ses disciples partent en mission. Les apôtres commencent à créer des églises, un peu partout. Ils commencent à Jérusalem, et puis après, ils élargissent le cercle. Et on arrive par exemple à Actes, chapitre 14, verset 21. Le lendemain, Paul partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors ça tombe comme un cheveu sur la soupe, parce que auparavant personne nous a expliqué dans le livre des Actes qu'est-ce que c'est qu'un ancien dans l'église. Mais ce terme est employé comme si on était censé quand même déjà comprendre ce que c'est qu'un ancien. Et pour cause, les anciens font partie de la vie du peuple de Dieu au moins depuis les premiers chapitres de l'Exode, quand Moïse est allé s'adresser aux anciens du peuple pour leur dire le plan de Dieu pour leur salut, pour leur libération d'Égypte. Et on les retrouve tout au long du récit. On les retrouve dans les évangiles, et là, Paul n'est pas en train d'inventer un nouveau concept. Il est en train de leur dire « nommez des anciens dans chaque église ». Et donc ce terme devait évoquer pour les gens de cette époque, eh bien, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, concernant le rôle des anciens, des responsables chargés de la gestion de la communauté qui exercent ensemble leurs responsabilités. Des responsables chargés de la gestion de la communauté qui exercent ensemble leurs responsabilités. Ça voulait dire au moins ça, quand Paul dit qu'il allait nommer des anciens pour les chrétiens dans chaque église. Le terme d'ancien, on le retrouve ensuite dans les épîtres. Et ce qu'on va voir dans un petit moment, au troisième point, c'est qu'il y a des termes qui sont employés de façon interchangeable pour désigner les responsables des églises. Tantôt c'est ancien, tantôt c'est conducteur, tantôt c'est berger, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on découvre dans les épîtres ? 1 Timothée 5, 17, par exemple. On a quelques précisions concernant la fonction des anciens. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Donc les anciens, ils président, et certains d'entre eux au moins, prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement dans l'Église. D'accord ? Ils président, ils gouvernent l'Église, ils conduisent l'Église, et certains d'entre eux, sinon tous, au moins certains d'entre eux, enseignent l'Église. D'accord ? Tite, chapitre 1, verset 5. Non, c'est pas ça. Je suis dans Timothée, là. Titre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Tiens, les anciens de la ville. Paul est en train de donner des instructions à Tite qu'il doit nommer des anciens dans chaque ville. Ce qui est sous-entendu ici, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une église par ville, c'est pas comme aujourd'hui, c'est que chaque église locale devait avoir des anciens. Et Tite était chargé de les trouver, de les nommer pour les églises locales. Donc chaque paroisse, si vous voulez, si on veut y penser en termes géographiques, chaque paroisse doit avoir ses anciens. Et puis Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Les anciens, apparemment, ils prient pour les malades aussi. Donc les anciens président, enseignent, ils sont plusieurs dans chaque Église et ils prient pour les malades. C'est ce qu'on découvre au moins par une lecture rapide, un survol, du Nouveau Testament, enfin du Livre des Actes et des Épîtres. Maintenant, je passe au troisième point. Je l'ai dit, il y a plusieurs termes qui désignent les anciens dans le Nouveau Testament, des termes interchangeables qui mettent l'accent sur divers aspects de la fonction. Alors, je vais vous montrer que c'est interchangeable, par exemple, à travers le discours de Paul dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, Paul y convoque les anciens de l'église d'Éphèse pour leur dire adieu. Il sait pertinemment qu'il ne va jamais les revoir. Donc il les convoque en dehors de la ville pour être en privé avec eux et leur donner un discours d'adieu. Voilà ce qui est dit. Verset 17. Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Après, il commence à leur livrer un discours. On arrive au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alors on a des anciens qui sont également appelés évêques au verset 28. Évêque, c'est-à-dire, que je ne dise pas de bêtises, surveillant, littéralement, celui qui surveille, qui examine. Et en tant qu'évêque, ils doivent faire paître le peuple de Dieu, c'est-à-dire jouer le rôle d'un berger. Donc on a au moins trois termes là qui désignent les anciens. Trois idées qui sont attachées au ministère des anciens. Philippiens 1:1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Aux évêques et aux diacres. On a encore ce terme évêque, surveillant, appliqué aux anciens ici. Et puis 1 Pierre 5, 1 à 2, on a également cette idée où l'on découvre, où l'on voit que les anciens sont également des bergers. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, etc. etc. Des termes interchangeables. La raison pour laquelle j'insiste un peu là-dessus et que je vous montre les versets, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que chaque terme désigne une fonction séparée dans l'Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des églises dites épiscopales ou paliennes. Épiscopaliennes, je ne sais pas comment on dit en français. Tu sais peut-être. Ou paliennes.
Paliennes.
Épiscopaliennes. Qui ont donc des évêques en plus des anciens locaux. Pour l'église locale, ils ont des évêques qui sont, eux, des anciens d'anciens, quoi, qui exercent une autorité sur les anciens. Ils ont donc un peu plus de hiérarchie. Mais il semblerait que anciens et évêques, au moins, ce soient des termes interchangeables, en tout cas, pour Paul. Alors, quels sont ces termes qu'on découvre? Encore une fois, c'est un peu un survol, mais c'est bon d'avoir au moins les contours de ce ministère, dans ce numéro un peu introductif sur ce sujet. Eh bien sûr, on a « ancien » comme terme pour désigner les anciens. Tiens, tiens. Ceci dit, dans le Nouveau Testament, c'est un terme relativement rare pour désigner les anciens. Mais en grec, c'est le terme « presbyteros » qui donne « presbytre », un terme un peu vieillot pour désigner les anciens, ou bien les églises dites « presbytériennes » qui fonctionnent sur la base d'un conseil d'anciens. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire un ancien dans le grec? Ça veut dire quelqu'un d'âgé. Par extension, ça veut dire quelqu'un d'expérience, quelqu'un de mûr. D'accord? Les anciens, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Littéralement, quelqu'un d'âgé. Et par extension, l'idée derrière ce terme, c'est quelqu'un de mûr. Quelqu'un d'expérience. Un deuxième terme qui est employé, c'est le terme conducteur. Hegumenos, en grec, qui vient d'un verbe conduire, voilà. Ceux qui conduisent, littéralement. Ceux qui gouvernent, ceux qui exercent l'autorité sur la communauté. Hébreux 13, verset 17, par exemple, c'est un exemple, verset 24 également. Et ce terme est employé concernant Jésus dans Matthieu 2, verset 6. Les conducteurs. Un troisième terme, surveillant, en grec épiscopos, dans certaines traductions comme la colombe évêque. Ce qui signifie littéralement l'inspecteur. Eh oui, celui qui surveille, qui juge, qui discerne. Et ce terme est employé concernant Jésus également dans 1 Pierre 2, verset 25. Troisième terme, le terme berger.
Quatrième.
Pardon, quatrième, oui, merci. C'est pour voir qui suivait. Il n'y en a qu'un qui suit, c'est bien. Un peu découragé, mais c'est pas grave. Berger, poimen en grec. Alors, poimen, c'est le terme qui est employé pour parler des bergers qui reçoivent la visite des anges lorsque Jésus est né. Hein? berger, tout simplement. Mais parfois, les traducteurs choisissent de traduire pasteur parce que ça désigne pas celui qui exerce le métier de berger littéralement, mais celui qui est un berger dans l'Église. Et donc, nous, on emploierait plus fréquemment le terme de pasteur. C'est cet emploi qu'on remarque dans Éphésiens 4, verset 11. Rappelez-vous que l'image du berger, c'est une image emblématique du conducteur dans la Bible. On l'a vu avec Moïse, on l'a vu avec David, on l'a vu avec les responsables en général, Ézéchiel 34 par exemple, et ainsi de suite. Et ce terme est également employé concernant Jésus dans Jean chapitre 10, le chapitre où il est question du bon berger. Jésus dit « Moi, je suis le bon berger ». On pourrait mettre le bon pasteur, c'est le même terme. Hébreux 13, verset 20 également. Où il est dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Il s'agit de Jésus. Un cinquième terme. Oulala. Ma bouche a du retard sur mon cerveau, ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Enseignant, didaskalos en grec. Alors, il y a des gens qui pensent que là, il s'agit peut-être d'un ministère vraiment particulier dans le cadre de l'Église, pas forcément exercé par des anciens, ou pas forcément en tout cas exercé par tous les anciens. Ce qui est clair quand même, c'est que la question de l'enseignement est soumise à l'autorité des anciens en général. Donc que ce soit les anciens qui enseignent ou pas, ils sont responsables quand même de l'enseignement qui est prodigué dans l'Église. Mais dans Éphésiens 4, verset 11, par exemple, il est question des pasteurs et des docteurs, c'est-à-dire ses enseignants, didaskalos. Et il y a des gens qui pensent que pasteurs et docteurs, en fait, ça désigne un seul et même ministère. Voilà, il y a un petit peu un débat sur l'interprétation du grec. Pasteurs et docteurs, ou bien pasteurs d'une part et docteurs d'autre part. Bon. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Voilà, ça fait partie, docteur, ça fait partie de ces ministères importants que Dieu a institués pour l'Église. Okay? Apôtre, prophète, docteur ou enseignant. Et ensuite, il y a les autres dons. Alors, l'ancien, qu'est-ce que c'est à ce stade? C'est quelqu'un, donc, de mûr dans la foi, semble-t-il, qui gouverne avec d'autres la communauté, qui discerne les problèmes au sein de la communauté, qui agit pour le bien du peuple comme un berger, et qui est chargé du bon enseignement de l'Église. Voici ce que dit Paul dans la conclusion de son discours aux anciens d'Éphèse, hein, acte 20 toujours, un super discours. Enfin oui, ça vient de l'apôtre Paul, hein, ça ne peut pas être autrement. Prenez donc garde à vous-même, il parle donc à des anciens, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant, etc., etc. Vous voyez, les anciens, ce sont des gens mûrs dans la foi, qui gouvernent avec d'autres la communauté, qui discernent les problèmes, qui agissent pour le bien du peuple et qui sont chargés du bon enseignement de l'Église. Quatrième point. L'ancien contour de la vocation. Alors là, je vais m'appuyer essentiellement sur ce qui est dit au sujet du ministère des anciens dans ce qu'on appelle les épîtres pastorales, les épîtres que Paul a écrites à des pasteurs, comme Timothée et Tite. J'ai prêché sur 1 Timothée, chapitre 3, le texte où Paul parle spécifiquement de la fonction d'ancien dans l'Église, donc je vous renvoie à cette prédication, hein, si vous voulez une étude plus textuelle de ce passage. Mais quelques éléments qu'on peut au moins glaner des instructions de Paul. Qui peut exercer la fonction d'ancien? Eh bien, contour du personnage. D'abord, un homme. Dans 1 Timothée 2, quelques versets auparavant, avant de parler des anciens, Paul dit très clairement « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, ce qui veut dire dans la paix, dans une attitude paisible, et non pas de contestation. » Alors, un homme, certes, mais ça ne veut pas dire n'importe qui, juste parce qu'on est homme. Quand Paul parle de la distinction, de la différenciation des rôles et des devoirs entre les hommes et les femmes, il ne le fait pas dans le vide, quoi. Hein. Il le fait parce que derrière, il y a toute une théologie, d'accord, de la différenciation des sexes et donc des devoirs et des responsabilités entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas du machisme, ce n'est pas de la misogynie, c'est de la théologie. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est pas très politiquement correct de parler ainsi, et je ne crois pas me tromper en disant que la majorité des églises protestantes, en France en tout cas, reconnaît maintenant aujourd'hui le ministère pastoral des femmes et le ministère d'anciens attribué à des femmes. Je ne crois pas me tromper en disant ça, mais c'est très nouveau. Hein, dans l'histoire de l'Église, on n'a pas eu de mal, jusqu'à l'apparition du féminisme en tout cas, à comprendre ce que disait Paul dans un tel passage. Voilà. Donc, à mon avis, c'est un peu l'influence de la culture sur notre lecture de la Bible, alors que ça devrait peut-être être l'inverse, notre lecture de la Bible qui influence la culture. Bref, l'homme qui exerce le ministère d'ancien, c'est censé être un homme, mais pas, vous l'aurez compris, pas un homme efféminé, pas un homme qui n'est pas très au clair sur la différence entre un garçon et une fille, pas un homme qui promeut, la théorie du genre, voilà, dans les manuels scolaires, voilà. Non, c'est un homme qui a compris la théologie de la masculinité et la théologie de la féminité, et qui la met en valeur, et pour qui c'est une belle chose. C'est un homme qui représente une image fidèle et positive de la masculinité, selon l'Écriture. Pas un macho, mais pas une mauviette, d'accord ? Une image positive et fidèle de la masculinité dans la Bible, et un homme, évidemment, qui promeut la dignité, la valeur de la femme, et la place qu'elle occupe dans l'Église et dans la famille. Alors, l'ancien, c'est un homme. L'ancien, c'est un homme à la vie de famille exemplaire. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. L'expression en grec est assez difficile à traduire. Littéralement, ça serait quelque chose du genre un homme d'une seule femme. Pas forcément un homme qui est tout entier occupé par une femme, mais sa femme. Ce que Paul est en train de souligner, c'est la fidélité de l'ancien à sa femme. C'est son dévouement à sa femme. C'est l'amour sacrificiel qu'il porte pour sa femme. Et c'est un amour sacrificiel qui est censé être manifeste. Un homme d'une seule femme. Pour Jonas, il n'y a qu'une femme dans sa vie. Et tout le monde peut en témoigner, vous voyez ? C'est ça l'idée. C'est un homme d'une femme. Un peu plus loin dans le même passage, verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Ici, il faut faire la distinction, évidemment, entre vie de famille exemplaire et vie de famille parfaite. Paul n'est pas en train de dire que l'ancien, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché dans sa vie, ou qui a une famille sans péché, voilà. C'est des gens parfaits, c'est des anges, en fait. Non, il est en train de dire que c'est une famille exemplaire. Ça veut dire que l'ancien doit être en mesure de traiter les problèmes dans sa famille de façon exemplaire. Pas qu'il ait une famille parfaite, mais qu'il puisse traiter une famille de pécheurs, et sa propre vie en tant que pécheur, de façon exemplaire. Affronter les problèmes de façon exemplaire. Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit « tenir ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité ». La parfaite dignité, c'est la façon de faire, c'est la méthode. C'est le style, si vous voulez, c'est l'image qui ressort de la façon dont il gère sa maison. Ok, l'ancien c'est un homme à la vie de famille exemplaire. pas parfaite, mais exemplaire. Troisièmement, c'est un homme apte à l'enseignement. 1 Timothée 3, verset 2, qu'il soit apte à l'enseignement. Le fait d'avoir des connaissances doctrinales ne veut pas dire qu'on est apte à les enseigner. D'accord ? Le fait qu'on ait des connaissances doctrinales ne signifie pas qu'on est apte à les enseigner. Il y a des gens qui sont théologiens, mais qui ne sont pas enseignants. Il y a des gens qui ont le don de la connaissance, au sens de la connaissance théologique, mais qui n'ont pas le don d'enseigner. Et là, je ne sais pas si Paul veut vraiment dire que ce sont des gens qui ont le don d'enseigner, mais il faut qu'ils soient aptes à enseigner. À mon avis, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient prêts et capables, capables d'expliquer la doctrine, la présenter à ceux qui demandent et la défendre contre des fausses doctrines. Donc, les connaissances doctrinales sont importantes, mais la faculté d'un ancien à les formuler, à les expliquer et à les utiliser pour répondre et dénoncer les fausses doctrines. Hein, vous avez vu dans le discours de Paul aux anciens d'Éphèse qu'il les a mis en garde contre le danger des faux docteurs, des mauvaises théologies, des mauvaises doctrines, des fausses doctrines qui vont circuler dans l'Église. Et il veut que les anciens soient prêts et qu'ils veillent, qu'ils soient vigilants, donc aptes à reconnaître ces choses et à pouvoir corriger les mauvaises doctrines, aptes à l'enseignement. L'ancien, c'est un homme d'expérience, 1, 2, 3, quatrièmement, un homme d'expérience, 1 Timothée 3, 6 et 7, qui ne soit pas nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Voilà, là on revient à l'idée de l'ancien en tant que personne mûre, personne d'expérience. Non seulement faut-il que l'ancien soit mûr dans sa foi, donc vous voyez, ça ne veut pas dire un ancien, c'est pas quelqu'un qui est forcément vieux, parce qu'on peut être vieux, et on s'est converti il y a 3 minutes, d'accord ? Et on peut être jeune, entre guillemets, et avoir été chrétien pendant 20 ans. Et le jeune de 35 ans qui a été chrétien depuis 20 ans est plus mûr dans sa foi que le vieux de 75 ans, pour vexer personne, qui a été chrétien depuis 3 mois, vous voyez ? Il faut être mûr dans la foi et il faut avoir une bonne réputation. Alors, pour plus d'explications sur ces termes, vous pouvez écouter évidemment la prédication qui est sur le site internet. Mais l'idée ici, c'est que c'est quelqu'un qui n'entretient pas d'ambiguïté dans sa vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas sortir le vendredi et puis, tiens, croiser Jonah à 1h du matin qui sort d'un bar dans le Vieux Lyon. Vous voyez ? Bon, c'est pas mal en soi. Tout seul qui sort d'un bar. Oui, tout seul, oui, parce que sinon... Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'entretient pas d'ambiguïté dans sa vie. Il a une vie claire. Voilà. Il reçoit un bon témoignage, même de ceux du dehors. Ensuite, c'est un homme de paix, 1 Timothée 3, 2 et 3. Il faut que l'évêque soit sobre, sensé, un peu plus loin, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Pourquoi il dit ça, Paul ? Ben évidemment, parce que les anciens, ce sont des gens dont le métier implique, enfin le métier, la fonction, la responsabilité implique d'avoir des interactions avec des personnes vivantes. Et des personnes vivantes qui sont aussi des personnes pécheresses. Donc l'ancien doit être un homme de paix, capable de discuter avec des gens d'horizons totalement différents, sans se vexer, sans vexer l'autre, sans que ça devienne des conflits, etc. Enfin, l'ancien est un homme sociable. Hein, il utilise ce terme Paul, sociable, verset 2. Hospitalier, c'est-à-dire quelqu'un d'accueillant. Voilà, quelqu'un qui ne va pas faire de la discrimination vis-à-vis des personnes. Quelqu'un qui va les recevoir et qui va apprécier le contact avec les personnes. Voilà, donc très rapidement, hein, je le reconnais, pour les contours de la vocation d'ancien. C'est une grande responsabilité, vous le voyez, et c'est pour cette raison que les exigences peuvent paraître très importantes. Vraiment très importantes, très sévères. Hein, si c'est la première fois que vous découvrez ce texte, vous dites, mais ouf, mais non, c'est du costaud, hein, c'est du costaud. Eh bien, lisons dans Tite 1, verset 5 à 9, un résumé, encore une fois, sous la plume de Paul, du cahier des charges d'un ancien, mais là, il le reformule un peu, et vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup des mêmes thèmes. Tite 1, verset 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète, donc, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Vous voyez, ce verset 9 résume bien ce que ça veut dire, être apte à l'enseignement. On comprend donc, en introduction à cette série sur le rôle des anciens dans l'Église, on comprend donc quelle est l'origine, le sens et l'importance du rôle des anciens, mais il reste encore un élément que je voudrais voir avant qu'on discute ensemble. Nous ne sommes pas, en tant qu'Église réformée évangélique, nous ne sommes pas une Église indépendante, nous ne sommes pas une Église dite congrégationaliste au niveau de notre théologie, mais nous sommes une Église presbytérienne et pour être plus précis, presbytéro-synodale. Presbytéro-synodale, ce qui signifie que nous reconnaissons notre confession de foi deux organes d'autorité dans l'Église, les anciens au niveau local et le synode au niveau de l'union d'Église, donc en principe au niveau national. Mais ça peut être régional si c'est une petite union d'Église, ça peut être international si c'est une immense union d'Église, d'accord ? Mais en principe, donc, une autorité locale et une autorité au niveau de l'union. Presbytéro, ancien, d'accord ? Synodal, synode. Pourquoi est-ce qu'on croit que cette théologie est biblique ? Parce que nous voyons dans le Nouveau Testament le principe de la solidarité et de l'interdépendance des églises locales. On ne va pas lire les passages, mais je vous donne les références. Acte 15, par exemple, il y a une grande controverse théologique. Le sujet, c'est la circoncision des païens qui se convertissent. Faut-il les circoncire, oui ou non ? On peut imaginer que les gens qui faisaient le boulot, là, les évangélistes, aient pu prendre une décision eux-mêmes sur le terrain. Non. Question sérieuse, ils envoient des délégués à Jérusalem, à l'église mère. Et à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe ? Ce texte nous dit que les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner l'affaire. Et on a donc les délégués du terrain qui arrivent, tout le monde se réunit, on partage des idées, on discute du sujet, et on arrive à une conclusion. Et ensuite, la conclusion est retransmise par le biais d'une lettre aux églises locales, en disant non, on s'est réunis en synode, entre guillemets, même si ce terme n'est pas employé, on s'est réunis, on a consulté des représentants de plusieurs églises, et on s'est dit non, on ne va pas créer de difficultés pour les païens qui se convertissent, on ne va pas leur imposer de se faire circoncire. Et l'information retourne sur le terrain. On a aussi ce principe qui apparaît de temps en temps, je reconnais que c'est assez rare, mais quand même de temps en temps dans les Épîtres, par exemple 1 Corinthiens 11, verset 16, quand il s'agit de la question des femmes, est-ce qu'elles doivent être voilées au culte ? Ouais, on est bien dans la Bible, on n'est pas dans le Coran. Est-ce que les femmes doivent être voilées au culte ? Et alors, Paul, à un moment donné, il dit, jugez-en vous-même pour voir si c'est convenable, etc. En tout cas, nous, on n'a pas cette coutume, ni les églises de Dieu, dit-il. C'est bizarre. Il associe à sa position les autres églises. Il dit, voilà, c'est pas la coutume dans nos églises. Vous voyez le principe de la solidarité et de l'interdépendance des églises locales. Et puis encore, dans 1 Corinthiens 14, verset 34, un autre sujet qui n'est pas forcément des plus simples, mais il dit, il emploie cette expression, « Comme dans toutes les églises des saints, je ne vais pas poursuivre la phrase parce que ça ouvrirait une boîte de Pandore, mais il dit en tout cas, comme dans toutes les églises des saints, que l'on fasse ceci et que l'on fasse cela. » Donc encore une fois, il se réfère à ce qui est coutumier et habituel dans le cadre de la multitude d'églises locales. Vous voyez les principes de la solidarité et de l'interdépendance des églises locales. Voilà pourquoi nous croyons que le principe de réunion synodale qui réunisse des délégués de plusieurs églises locales est un principe au moins légitime, bibliquement parlant. Quel est le rôle des anciens dans le synode ? Le synode, je l'ai dit, c'est une réunion de délégués d'églises locales appelés à se prononcer en cas de besoin sur des questions de doctrine ou de pratique. Mais les délégués qui se réunissent dans le cadre du synode et qui délibèrent sont des anciens. C'est le seul modèle qu'on ait dans l'Écriture. Enfin, si ce n'est pas des anciens, il faut que ce soit des apôtres. Et ça, c'est un peu plus difficile à avoir aujourd'hui. Donc, ce sont des anciens. D'accord ? Si on n'a pas l'apôtre Paul sous la main ou l'apôtre Pierre, on doit faire avec les anciens. Les délégués sont des anciens. Et j'insiste là-dessus. À mon avis, peut-être qu'on peut en discuter aussi dans un petit moment, mais les synodes qui se réunissent avec des délégués qui sont des laïcs, qui n'ont jamais été consacrés à aucune fonction dans l'Église, à mon avis, ce n'est pas biblique. D'accord ? Peut-être qu'on va y revenir. Quel est le rôle du synode maintenant dans l'Église locale ? On a vu quel était le rôle des anciens dans le synode. Ce sont eux, les délégués, qui sont envoyés par les églises locales pour délibérer dans le cadre du synode. Quel est le rôle du synode dans l'Église locale maintenant ? Le synode, d'après notre confession de foi, est censé être une aide pour les églises locales. En principe, il peut y avoir en tout cas des synodes régionaux. S'il y a beaucoup d'églises dans une région, beaucoup d'églises dans une autre région, on fait un petit synode régional. Mais la plus haute instance d'une union d'églises presbytéro-synodale, c'est le synode national, qui réunit des délégués de toutes les régions et de toutes les églises. D'accord ? Donc, une décision prise au niveau du synode régional peut être contestée ou au niveau du synode national, vous voyez. D'ailleurs, une décision régionale n'est jamais appliquée si elle n'a pas été approuvée par le synode national. Donc, la plus haute instance, c'est le synode national. Mais j'insiste sur le fait que le synode est censé être une aide pour les églises locales et non pas une autorité tyrannique pour les églises locales. Au niveau local, de toute façon, le synode ne préempte pas l'autorité du conseil d'anciens. D'accord ? Le synode est là pour aider, avoir plus clair dans des questions de doctrine ou de pratique. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc... Alors, conclusion. Vous avez pu le voir, vous le devinez, vous le saviez sans doute déjà, le rôle d'ancien dans l'Église est extrêmement important. Il faut, pour cette raison, des hommes qualifiés à l'exercer ce ministère. La fonction d'ancien, le fait qu'il y ait des anciens dans une église locale, ce n'est pas une option dans la Bible. On peut constater autour de nous, et même, je l'ajoute, à mes risques et périls, dans notre propre union d'église, on peut constater une très grande faiblesse dans ce domaine, dans le domaine de la fonction des anciens. J'ai un peu honte à le dire, mais je sais qu'il y a des églises locales où il y a des anciens qui ne sont probablement même pas des croyants. Paul dit dans 1 Timothée 3 que le ministère d'anciens, c'est une belle activité. C'est une belle activité, mais c'est une activité exigeante. Et surtout, c'est un impératif pour l'Église. Et je termine simplement avec cette belle exhortation que Pierre adresse aux anciens dans 1 Pierre 5, versets 1 à 4. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est-à-dire Jésus, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà. On peut peut-être avoir un temps de réaction, question, discussion, d'accord ?